Julien Coquelroy, pour la suite d'RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure. Et RFI Matin, tout de suite, c'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
On commence avec le CHAN et la manche aller des éliminatoires additionnelles.
Une dernière marche vers le championnat d'Afrique des Nations de cet été au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'Afrique du Sud affronte le Malawi à 13h, temps universel, tandis que l'Algérie, elle, sera en déplacement sur la pelouse de la Gambie à 15h TU. Les manches retour, elles, sont prévues pour la semaine prochaine.
Du foot encore, chez les jeunes, la CAN U20 et la fin de la première journée de phase de groupe.
Et dans la poule, c'est pas de vainqueur, le Sénégal et la Centrafrique se neutralisent. Un partout, tout comme la RDC contre le Ghana. Un point qui satisfait quand même le sélectionneur des jeunes léopards, Guy Boukassa.
On a fait ce qu'il fallait. Lors d'une entame de compétition, le plus important déjà, c'est de ne pas perdre. Je pense qu'on part d'ici avec un point face à une équipe bien en place et très très bien organisée. Heureusement pour nous, on a eu un souci d'entame, mais on a très vite réajusté en deuxième mi-temps. Changeant notre dispositif tactique, ça nous a permis de rééquilibrer le match et de trouver le contrôle du jeu. Il nous a manqué juste un peu de réalisme en seconde période, et sinon, le match était bien. Pour respecter nos gars-là, non. Je pense que c'était, tout intervient dans une partie du match qui est assez difficile à gérer pour les jeunes. Une première carte. Donc, en termes de gestion, en termes de ce type de compétition, le gars-là avait une avance sur nous.
Guy Boukassa avec Olga Massangou. Ce samedi, dans le groupe A, troisième journée pour la Sierra Leone, leader qui affronte la Tanzanie, pendant que le pays organisateur, l'Égypte, défie la Zambie à 18h, temps universel.
En cyclisme, le Tour du Bénin touche à sa fin.
Et le maillot jaune, Reinhard Jantse van Rensburg, a creusé l'écart devant à l'issue de la cinquième et avant-dernière étape. Un nouveau sprint massif à l'arrivée des 100 km de Winnie à Porto Novo, que le Sud-Africain a dominé devant son dauphin au général, le Marocain Ibrahim Essebaï. 12 les sépare désormais, tandis que chez eux, les Béninois se sont enfin illustrés en plçant deux hommes dans l'échappée du jour. Des guépards qui progressent indiscutablement, Olivier Bron.
Le maillot du premier des Béninois. Merci d'applaudir très fort, Sodiede Ricardo Durin.
Chez moi, c'est vraiment une fierté pour moi parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné pour pouvoir donner le meilleur de moi, même de l'équipe. Et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui.
Ricardo Sojede en a rêvé, 80 km d'échappée repris dans les artères de sa capitale par un peloton affamé, 12e au final, 32e au général. Qu'importe, le cyclisme béninois travaille bien et progresse vite. Ex-monteur des cyclistes rwandais, investi avec ceux du Bénin depuis les États-Unis, Jock Boyer estime avoir fait en 3 ans ici ce qu'il avait mis 8 années à construire au pays des mille collines. Glorad Saizonou, 19e aujourd'hui, est confiant et patient.
Je crois que avoir la confiance et la foi, ça va donner quelque chose. Ça progresse, on le constate tous, on s'améliore de jour en jour avec de nouveaux équipements et beaucoup d'entraînements, on progresse beaucoup et ça se voit quand même. L'objectif n'est pas encore atteint, on rêve encore beaucoup plus, mais je crois que ça va aller avec le temps, chaque chose en son temps.
En gros, donc, les résultats vont venir. Et bien même, résume Ezer Mensa.
C'est que nous avons de bons rails. Dans les années à venir, nous allons frapper fort.
Olivier Pron, Cotonou, RFI.
Et dernière chance de victoire pour les Béninois, ça sera ce samedi, les 105 km entre Tofo et Cotonou en clôture du Tour du Bénin.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelroem.
Et à la une de l'info, ce sont les frappes les plus violentes en Syrie depuis le début de l'année 2025, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Israël a poursuivi hier ses bombardements dans le pays en réaction aux violences contre la minorité druze qui ont fait plus de 100 morts en quelques jours. Plus de 20 frappes israéliennes sur des entrepôts et des sites militaires syriens dans la journée de vendredi. Au moins un mort civil, selon l'agence officielle Sana. La présidence syrienne dénonce une dangereuse escalade et le secrétaire général de l'ONU condamne également ces raids. Les frappes israéliennes aussi sur la bande de Gaza. Au moins 42 morts pour les journées d'hier dans l'enclave palestinienne, selon la défense civile. Hier, le blocus israélien sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza est entré dans son troisième mois. Et des drones ont pris pour cible le navire de l'organisation Flottille de la Liberté qui cherchait à acheminer de l'aide par la mer vers la bande de Gaza. L'attaque a eu lieu au large de Malte, dans les eaux internationales, et l'ONG dit soupçonner Israël. Et puis les Australiens votent aujourd'hui, élection législative au terme d'une campagne marquée par le pouvoir d'achat, l'environnement et la menace que représentent les droits de douane mis en place par Donald Trump. Le premier ministre sortant Anthony Albanese semble favori. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et à la une aujourd'hui, les atteintes à la liberté de la presse.
C'est aujourd'hui, samedi 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle fait parfois les gros titres, mais ce n'est pas le cas cette année dans la presse internationale. Il n'empêche, certaines publications mettent le doigt là où ça fait mal. C'est le cas du magazine en ligne Plus972 qui donne la parole aux Israéliens et aux Palestiniens et qui publie un long article sur la censure des médias en Israël. Selon le magazine, la censure militaire israélienne a interdit en 2024 la publication de 1635 articles et en a partiellement expurgé 6265. Une augmentation sensible qui, nous dit-on, se reflète non seulement dans le volume considérable d'activités du censeur, mais aussi dans l'interdiction de publications pures et simples. Pourtant, le public n'en sait rien, ou presque, précise Plus972. Lorsque la censure intervient, les médias n'ont pas le droit de dire qu'ils ont été censurés, ce qui signifie qu'elles restent en grande partie cachées au public. Aucune autre démocratie dite occidentale ne dispose d'une institution comparable. En 2024, conclut le magazine en ligne, Israël occupait pour la liberté de la presse une triste 101e place sur 180 pays.
À voir également ce matin dans la presse un sourire qui s'affiche en une du Guardian.
C'est le sourire de Nigel Farage, dont le parti d'extrême droite Reform UK vient de remporter une élection partielle dans le nord de l'Angleterre. Cette élection était considérée comme un test pour le parti travailliste au pouvoir depuis 10 mois. C'est le début de la fin pour les conservateurs, a affirmé Nigel Farage. Mais le Guardian ne se montre pas surpris. La fragmentation de la politique britannique n'est pas nouvelle, nous dit-il. La désillusion face aux choix proposés n'est pas nouvelle non plus. En Italie, où l'extrême droite est au pouvoir, le Corriere della Sera parle d'un tournant historique, un véritable choc sismique qui met en danger le système politique traditionnel au Royaume-Uni. Comment expliquer cette victoire ? Pour le quotidien, le vote pour Reform UK est un vote de protestation contre le statu quo et contre l'ensemble de l'establishment traditionnel. Et le Corriere della Sera poursuit, si les élections générales de l'année dernière qui ont porté au pouvoir le parti travailliste de Keir Starmer faisaient figure de référendum contre les conservateurs, l'électorat déjà déçu par le parti travailliste se tourne désormais vers la seule alternative restante, la droite populiste.
France à présent, le journal La Croix dresse le portrait du futur pape.
Le journal catholique a rencontré 15 cardinaux qui, nous dit-on, dévoilent le portrait robot du futur pape. Un pape capable de tenir l'équilibre dans une église marquée par la diversité et la sécularisation. Le futur pape, estime un cardinal italien, devra d'abord être un pasteur. Cette semaine, l'en a persuadé, la baisse progressive du nombre de catholiques ne sera bientôt plus l'affaire de l'Occident. Seul, dit-il. Le collège, ajoute La Croix, semble aujourd'hui chercher quelqu'un de peu jargonneux, théologiquement solide, mais surtout à même d'aller au contact du terrain. Le futur pape, estime de leur côté certains cardinaux, ne devrait pas être trop jeune. Est-ce qu'on veut vraiment repartir pour un pontificat de 25 ans comme au temps de Jean-Paul II, interroge l'un d'entre eux. Il lui faudra la santé physique quand même, insiste un autre, car la tâche est écrasante. Enfin, d'où viendra le successeur de François ? Le cardinal autrichien Christoph Schönborn estime que l'Asie et l'Afrique influenceront l'avenir de l'Église. Ce n'est pas une idée, mais un fait, ajoute-t-il. Les cardinaux souhaitent aussi un rassembleur, une figure de compromis, quelqu'un qui sache écouter tout le monde, un homme fort, mais doux. La mission s'annonce difficile. Le conclave pour désigner le successeur de François commencera jeudi prochain. Et il durera jusqu'à ce qu'une fumée blanche annonce l'élection d'un nouveau pape.
Et la cheminée a été installée hier sur le toit de la chapelle Sixtine. Merci Catherine Potet. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Un jour important à Libreville, le général Brice Oligui Nguema prête serment ce samedi en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains. Ses réjouissances célèbrent à la fois le rétablissement de l'ordre constitutionnel interrompu par le coup d'État d'août 2023 et le retour du Gabon dans la grande famille continentale. L'Afrique n'a-t-elle pas raison d'y adhérer, Jean-Baptiste ?
Il y a probablement quelque chose à célébrer en dehors des succès personnels du général Brice Oligui Nguema. Avec ses compagnons de poutre, il avait en 2023 mis le Gabon au banc des nations africaines, qui les sommettent alors de retourner dans les casernes en rendant le pouvoir aux civils, en rétablissant l'ordre constitutionnel par des élections libres, équitables, crédibles et transparentes. La plupart de ces injonctions se sont vite évaporées. Il n'empêche, ce sont les mêmes dirigeants africains qui vont le célébrer ce jour à Libreville. Avec une telle capacité d'oubli, l'Union africaine serait peut-être plus crédible en admettant une fois pour toutes que les coups d'État ne sont qu'un mode d'accession au pouvoir comme un autre. Le général Oligui Nguema pourrait aussi inspirer d'autres aspirants putschistes.
En quoi consisterait donc cette inspiration ?
Vous commencez par prendre le pouvoir par les armes. Puis, une fois aux commandes de l'État et de ses moyens, vous vous constituez une clientèle politique. Vous vous présentez ensuite devant les électeurs et voilà votre situation régularisée. Alors, en costume civil impeccable, vous pourrez écumer les sommets sans que nul n'ose vous demander comment vous y êtes parvenu. Quant à votre prédécesseur qui s'est débrouillé pour être renversé, tant pis pour lui, il mérite son sort, le vaincu. Ainsi fonctionne le club des chefs d'État. Peu importe si les coups d'État, comme prône l'Union africaine, compromettent la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le développement des pays du continent.
Jean-Baptiste, avec près de 95% des voix, Brice Oligui Nguema ne peut-il pas s'enorgueillir d'être réellement désiré par son peuple ?
Oui, ce score époustouflant, presque sans fraude, mériterait même de chaleureuses félicitations. Les Gabonais l'ont plébiscité, il saura mériter leur confiance. Sinon, comme tous les peuples, ils accepteront plus facilement de subir sa politique. Bien sûr, la facilité avec laquelle l'électorat se convertit à de nouveaux cultes laisse souvent songeur. Sous tous les cieux, les peuples ont une telle soif de héros que certains finissent par être victimes de leur propre crédulité, même si on n'en est pas encore là au Gabon. Mais étant donné que les célébrations ont déjà commencé, pourquoi ne pas se réjouir de ce que sur 5 nations africaines passées sous la botte de militaires putschistes depuis 2020, une au moins aura renoué avec la normalité. Quelle chance ! Car ailleurs, tel autre putschiste, sans passer par le suffrage universel, s'apprête à s'octroyer une rallonge de 5 années de pouvoir, en plus des 4 déjà passées au palais présidentiel, en attendant d'autres prorogations si le peuple le désire. Président à vie, putschiste à bail emphytéotique, qui voudrait ne plus être désigné que comme président de la République. Tous les putschistes ne se valent décidément pas.
Faut-il comprendre que certains putschistes sont dignes d'admiration ?
Il y en a que l'on admire pour avoir mis fin à un régime insupportable. C'est le cas de Brice Oligui Nguema, tombeur d'Ali Bongo, ou de Zine El Abidine Ben Ali qui avait renversé Habib Bourguiba en Tunisie. Cela ne présume rien de ce que sera ensuite leur propre régime. D'ailleurs, Ben Ali lui-même a mal fini. Certains prennent le pouvoir pour nettoyer les écuries et impulser une dynamique politique saine, tel Amadou Toumani Touré, qui, parce qu'il a bien conduit sa transition, reviendra par les urnes 10 ans plus tard. Autre cas emblématique, trop souvent cité ici, faute d'antidote, Jerry Rawlings au Ghana. En 3 mois, il a organisé des élections et rendu le pouvoir aux civils élus. Il reviendra cependant 15 mois plus tard pour finir d'assainir l'économie et initier en 1992 une démocratie exemplaire. Rien en commun avec les putschistes rêvant d'éternité qui craignent tant le suffrage universel.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et sur RFI, bientôt 6h, en temps universel, avant le journal, un peu de musique avec une nouvelle icône de la scène francophone. La Belge originaire de RDC, Théodora. Elle avait cartonné avec son titre Congolaise sous BBL. La revoilà avec Il me rit tout sonné. C'est dans notre sélection du mois.
Pour sommier. suis juste passionné.
Théodora dans la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans 45 secondes tout juste. A tout de suite.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Abdelkader, l'Arabe des Lumières, c'est le titre de l'ouvrage de Karima Berger. Avec elle, nous revenons sur cette figure emblématique de la résistance à la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle, mais surtout sur sa dimension spirituelle. Lui qui était un grand mystique musulman, inspiré par la figure du grand penseur soufi Ibn Arabi.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.